Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le royaume des cieux selon l'évangile de Matthieu. Voici le thème actuel de nos émissions. Comment définir le royaume des cieux? Et comment mener sa vie à la lumière de ce royaume? Pour nous donner des éléments de réponse, Jésus a raconté de nombreuses paraboles. Et lors de cette deuxième série consacrée à l'étude du royaume des cieux, nous nous penchons sur chacune de ces paraboles. Pour commencer, Marie-Claire va lire un extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 13 à 14. Il s'agit de la parabole des portes.
Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui l'y trouvent.
Merci, et à présent notre invité Paul se joint à nous pour nous expliquer le sens de cette parabole. Paul, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. La parabole que nous venons d'écouter se trouve vers la fin d'un discours durant lequel Jésus, sur une montagne, s'adresse à ses disciples. Pendant son sermon, Jésus insiste en disant que la recherche du royaume des cieux doit être notre priorité première, et il nous aide à comprendre la vie que nous devons mener pour grandir en maturité de foi dans ce royaume. Avec ces deux illustrations, celle des portes et celle des chemins, Jésus affirme qu'il n'est pas facile d'entrer dans le royaume des cieux, et que celles et ceux qui appartiennent à ce royaume feront toujours partie d'une minorité. À l'époque de Jésus, les grandes villes en Israël étaient entourées de murailles, et ces murailles étaient ponctuées de portes qui permettaient aux gens d'y entrer. Les grandes routes principales et commerciales aboutissaient à de grandes portes, et la plupart des gens entraient dans les villes en les empruntant. Toutefois, il existait souvent d'autres portes, dans ces mêmes murailles, plus étroites et plus difficiles d'accès. On y accédait en suivant des chemins peu empruntés.
Merci. Et comment comprendre la parabole à la lumière de ces faits?
En fait, la parabole évoque deux destins, la perdition et la vie. La plupart des gens courent, sans trop réfléchir, vers la perdition. La route pour y accéder est facile, et il suffit de suivre la foule. Par contre, celles et ceux qui cherchent la vie sont peu nombreux et ils trouveront ce chemin difficile.
Pouvez-vous définir la perdition et la vie dans ce contexte?
Bien sûr. Dans la Bible, le mot « vie » a plusieurs sens, qui peuvent aller au-delà de ce que nous connaissons habituellement. Lorsque Jésus emploie le mot « vie », il évoque deux notions bien précises. D'abord, il parle de la vie spirituelle, c'est-à-dire de la vie vécue en communion avec Dieu, au travers d'une relation intime avec lui. Ensuite, il évoque la vie éternelle, le fait que cette vie vécue avec Dieu continue au-delà même de la mort et qu'elle durera toute l'éternité. Il est sous-entendu que celles et ceux qui appartiennent au royaume des cieux ont déjà reçu cette vie. Ils vivent déjà dans la présence de Dieu, en communion avec lui et sous son règne. Bref, la vie dont parle Jésus est la vie avec Dieu. La perdition est un mot qui signifie tout simplement que l'on est perdu. Et dans notre contexte, il veut dire que l'on est perdu loin de Dieu et qu'on ne vit donc pas en communion avec lui. Le mot « perdition » évoque aussi l'avenir, le fait que celles et ceux qui sont perdus passeront l'éternité loin de Dieu, privés des bénédictions de la vie éternelle.
Donc l'humanité se divise en deux grands camps, ceux qui sont destinés à la vie éternelle et ceux qui sont destinés à la perdition éternelle.
C'est exact, Yann.
Il s'agit là d'une vérité solennelle, elle fait réfléchir.
Et c'est justement le but de cette parabole. La plupart des gens courent inconsciemment vers la perdition. Ils pensent être sur la bonne route, mais ils se trompent. Ils sont comme des somnambules, mais Jésus, par le biais de cette parabole, veut les réveiller afin qu'ils cherchent plutôt le chemin resserré, celui qui conduit à la porte étroite et mène à la vie.
Il convient donc de se demander quel est ce chemin resserré et quelle est cette porte étroite. Où trouver l'un et l'autre?
Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Puis au chapitre 10 et au verset 7, il annonce « Je suis la porte ». Autrement dit, pour accéder au royaume des cieux et y trouver la vie, il faut passer par Jésus, et il n'existe aucune autre porte d'accès. De manière plus précise, pour recevoir cette vie vécue avec Dieu, il faut se repentir.
Parlez-nous davantage de la repentance.
La repentance consiste en un changement radical de mentalité et d'attitude. En l'occurrence, il s'agit d'un changement d'attitude envers Jésus. Selon l'évangile de Matthieu, la repentance consiste surtout à reconnaître que Jésus est le roi sauveur promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et si Jésus est roi, il est nécessaire de se soumettre à lui, de le laisser régner dans nos vies. Il est essentiel de lui faire confiance, de l'écouter, de le suivre et lui obéir, de l'adorer.
Et pourquoi Jésus suggère-t-il que cette démarche de repentance est comme passer par une porte très étroite?
Tout simplement parce que les gens préfèrent mener leur vie comme bon leur semble, plutôt que de la confier à Jésus. Les gens aiment mieux écouter la voix de leurs propres désirs ou de leurs propres émotions au lieu d'écouter la Bible. Ils préfèrent suivre la voie de la tradition ou celle des médias au lieu de suivre Jésus.
Et pourtant, ce sont des routes qui mènent à la perdition.
Oui, c'est triste de voir les foules courir à leur perte. C'est pourquoi cette parabole sert d'avertissement et d'invitation. Chers amis, imaginez que vous vous trouvez devant un carrefour. Devant vous se trouve une grande route facile à emprunter, mais elle conduira à votre perte. Sur votre gauche, vous remarquez un petit chemin, mais qui a l'air de monter à pente raide vers les montagnes. Sur ce chemin, vous voyez Jésus. Il vous fait signe de la main et vous invite de le rejoindre. « Suivez-moi, dit-il, et je vous donnerai la véritable vie. » Cher ami, qu'allez-vous décider? Quelle direction prendrez-vous?
Merci Paul pour cet appel clair à suivre Jésus. À présent, nous allons aborder une autre parabole. Elle aussi se trouve dans le discours de Jésus sur la montagne, et elle suit la parabole des portes. Écoutons l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 15 à 20.
Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces? Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Merci Marie-Claire. Cette parabole parle des arbres et des fruits qu'ils portent. Quelle en est la signification?
Il s'agit essentiellement d'un avertissement adressé aux disciples de prendre garde aux faux prophètes. Certains prétendront parler au nom de Dieu et d'autres accompliront même des prodiges. Cependant, quelques-uns parmi ces gens-là ne seront ni de vrais prophètes ni de vrais disciples de Jésus. En prononçant cette parabole, Jésus nous encourage à user de discernement. Il ne faut ni écouter ni suivre n'importe qui. Il ne suffit pas de parler au nom de Jésus pour être un bon citoyen du royaume des cieux. Il faut aussi porter du fruit.
Mais de quel fruit s'agit-il? Qu'est-ce qu'un bon fruit dans ce contexte?
Le fruit dont il s'agit est celui d'un bon caractère sur les plans moral et spirituel. Lors de son discours sur la montagne, dans lequel nous trouvons cette parabole, Jésus enseigne la manière de vivre selon les valeurs du royaume des cieux. On peut alors dire que celui qui s'applique à mettre l'enseignement de Jésus en pratique portera de bons fruits. Et je peux ajouter que le fruit principal dont Jésus parle est celui de l'amour, un amour saint et approprié, un amour envers son prochain, un amour aussi envers son ennemi. citons à présent certains mauvais fruits. D'abord celui de la violence physique, sexuelle ou verbale, les excès de colère et la maltraitance. Ensuite, l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Puis le manque d'intégrité dans la gestion de l'argent, la malhonnêteté, le vol, le détournement de fonds, et ainsi de suite. Si un responsable d'église porte l'un ou l'autre de ces fruits et ne s'en repent pas, nous sommes en droit de douter qu'il soit un véritable chrétien. Il vaut mieux ne pas suivre une telle personne. Cependant, même si cette parabole vise surtout à nous mettre en garde contre les faux enseignants, il s'en dégage une leçon importante pour tout chrétien.
Quelle est-elle?
Tout disciple de Jésus, tout chrétien, sans exception, est appelé à porter de bons fruits. Et si nous n'en portons pas, la sincérité de notre confession de foi est à remettre en cause. Il faut l'avouer, tout chrétien vit en lutte avec le péché, et il peut par moments porter de mauvais fruits. Cependant, le vrai chrétien va se remettre en question. Il s'examine, il vit la repentance. Le vrai chrétien s'appliquera sérieusement à éliminer les mauvais fruits dans sa vie pour les remplacer par les bons. Par le biais de cette parabole, Jésus pose une question à tous soi-disant disciples. Il vous demande « Êtes-vous un bon arbre? Produisez-vous de bons fruits? » Vous demandez-vous encore quel est ce bon fruit? Écoutons pour conclure la réponse de l'apôtre Paul dans sa lettre écrite aux Galates et examinons-nous à la lumière de ses propos. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Nous remercions Paul pour sa participation aujourd'hui. Nous le retrouverons la prochaine fois. Il nous aidera à comprendre la parabole des bâtisseurs. À présent, Marie-Claire est de retour et elle va nous conduire dans une courte prière.
Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es digne de régner dans nos cœurs. Nous comprenons que tu nous appelles à produire de bons fruits, les fruits de la repentance et de l'amour. Seigneur Jésus, nous avouons que cet appel nous paraît souvent comme un chemin raide et étroit que nous avons du mal à suivre. Nous nous tournons donc vers toi et te demandons ton aide. Aide-nous à discerner le mal qui réside dans nos cœurs et à nous en détourner. Aide-nous également à mieux t'aimer, à mieux aimer notre prochain et notre ennemi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, dans nos cœurs et dans nos vies, comme au ciel.
Merci, et c'est ainsi que notre émission se termine. Je vous encourage à revenir bientôt pour en apprendre davantage sur le royaume des cieux. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.